bienvenue à CMD, Communication Médias Divers, qui est le nom du balado produit par le Cégep de Terrebonne dans le cadre du cours Critique des médias. Je m'appelle Julie Corbeil et je suis enseignante dans le contexte du cours, mais aussi animatrice de ce balado. Ici, on va s'interroger sur les enjeux médiatiques d'aujourd'hui. Et dans les prochaines minutes, on a le plaisir de recevoir deux invités qui vont nous présenter des productions médiatiques autour d'un enjeu sur lequel y allons à dire l'utilisation, en fait, les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux. Allô, vous deux.
Bonjour.
Ben, allô.
Oui, donc j'ai Bernie et Gabriel en ma compagnie et on va d'abord commencer par présenter cet enjeu médiatique-là qu'on connaît évidemment bien, mais il y a toujours de quoi dire encore aujourd'hui. Je ne sais pas si l'un de vous deux avait déjà déterminé qui prendra la parole en premier.
Je pourrais commencer.
Vas-y,
en fait,
je t'écoute.
Notre enjeu, c'est comme c'est les conséquences des réseaux sociaux qui a sur une personne. En fait, ce que j'ai déterminé avec mes recherches, ben, c'est que les réseaux sociaux, en fait, il y a des conséquences néfastes et des conséquences positives. Il y a plusieurs conséquences qu'on peut voir, comme les conséquences néfastes, ça peut amener plus une dépendance envers les réseaux sociaux, une peur de manquer de quoi, penser qu'on va toujours manquer quelque chose d'important, même si c'est juste une sonnerie ou juste une notification qu'on entend, là. Puis, qu'est-ce qu'on peut aussi trouver que, comme conséquence positive, c'est qu'en fait, ça peut combler aussi une solitude, parce qu'on sait qu'on va pendant 2020, avec la pandémie de COVID-19, on est toujours isolé, on était restreint chez nous. Donc, au moins, avec les réseaux sociaux, on a pu communiquer avec d'autres personnes, communiquer avec nos amis, genre, d'une manière pour pas qu'on se sente toujours renfermé seul.
Excellent. Puis, est-ce que ça faisait le tour de la question de ton côté? Oui.
Ouais.
Oui, Gabriel, je t'écoute.
Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ça a complètement révolutionné notre manière de voir le monde aujourd'hui. On peut tout se partager en un seul clic. On en apprend de partout dans le monde sans avoir à se déplacer. C'est vraiment une technologie révolutionnaire. Évidemment, ça entraîne des points positifs, des points négatifs. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a beaucoup de points négatifs aussi en majorité qu'on a pu soulever. Notamment de l'anxiété, des pertes en confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes à qui ça l'affecte, beaucoup les réseaux sociaux qui consacrent une grande partie de leur vie. Puis évidemment, ben, il y en a pour qui ça apporte du positif et d'autres beaucoup, beaucoup de négativité.
Et bon, de chacun de votre côté, vous avez analysé deux productions médiatiques autour de la question. Vous pouvez déjà commencer à me présenter ça. On va commencer par Bernie.
Ben, moi, la première production que j'ai analysée, ben, c'est en fait ce documentaire sur Netflix qui est « The Social Dilemma ». En fait, c'est un documentaire d'une heure et demie qui parle en gros vraiment, qui va en détail sur vraiment les géants du web, comment ils font leur application, comment c'est formé les algorithmes, tout ça. Donc, avec le documentaire, on peut en apprendre plus vraiment sur les patrons sur des gens du web. On peut voir qu'il y a beaucoup d'interviews qu'on fait avec des ingénieurs qui ont fait, comme des ingénieurs sur Google, qui expliquent comment ils ont créé des applications comme, par exemple, juste Gmail, comment ils font pour que ça reste addictif pour une personne, même si c'est une application de courriel. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont dit que il y a toujours une sonnerie plaisante, il y a toujours quelque chose qui nous ramène toujours là-dedans. Fait que je trouvais ça que c'était intéressant pour vous montrer que les effets néfastes vraiment des réseaux sociaux. Je trouvais aussi sur la vidéo complète, je trouve que c'était quand même intéressant vraiment avec les couleurs sombres pour montrer vraiment que le sujet c'est important, faut vraiment payer attention. Puis quand il y a vraiment des interviews avec une personne importante, c'est là que la clarté montait. Puis pour vraiment qu'on se focus sur la personne, sur ce qu'elle dit, pour vraiment qu'on l'assimile, pour former notre propre opinion après.
Excellent. Puis la deuxième production?
Moi, ma deuxième, c'était plus une petite vidéo ludique que j'ai trouvée sur YouTube. En fait, ça fait partie d'une petite émission. On parle de santé mentale. En fait, cet épisode, ça parlait aussi des réseaux sociaux, mais elle c'était plus courte parce que faisait plus de montage rapide, faisait plus des dessins, des animations avec des petits sketchs quand même comiques. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'elle voulait montrer quelques conséquences qu'on connaît tous, comme la dépendance, les effets néfastes qui amènent jusqu'à la dépression, à l'anxiété. Mais aussi, cette vidéo amène des effets, parle des effets aussi positifs, comme j'avais parlé, vraiment, ça comble la solitude, ça crée des liens avec des personnes qu'on connaîtrait peut-être jamais, ça garderait des liens avec notre famille. Puis donner aussi des solutions pour contrer quelques effets néfastes, comme modérer notre temps, chronométrer qu'est-ce qu'on peut faire, ajouter des arrêts automatiques pour ce qu'on peut faire.
Sinon, Gabriel, toi, qu'est-ce que tu as analysé?
Donc moi aussi, il y a eu une vidéo YouTube, donc une vidéo explicative, si vous voulez, qui s'appelle « 7 effets négatifs des réseaux sociaux » par le WinTopic Show. Donc c'était l'épisode numéro 15, fait plusieurs vidéos explicatives sur à peu près n'importe quoi, plusieurs sujets divers qui entourent notre monde en ce moment dans l'actualité. Donc c'était une petite vidéo explicative avec plusieurs petits extraits vidéo qui expliquaient cette conséquence qu'ont les réseaux sociaux sur nous. C'était en majorité et même en totalité des conséquences négatives qu'il a pu relever. On parlait notamment de cyber-intimidation, cyber-harcèlement, d'anxiété, de problèmes de sommeil. Il n'y avait vraiment rien de positif dans sa vidéo, mais c'était une vidéo qui était faite, qui était réalisée très dynamique, je pourrais dire. On enchaînait les plans très rapidement. Je pense qu'on est dans une société, notamment avec les réseaux sociaux, où est-ce qu'on veut que tout aille vite, on veut avoir l'information rapidement. Puis c'est de cette façon-là qu'ils l'ont diffusé dans la vidéo. Puis je trouve que le fait d'une très bonne façon. Pour mon autre production, c'était cette fois-là un texte informatif qui s'appelle « Quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être? » Donc, est un petit peu différent. C'était vraiment un texte complet avec plusieurs sources scientifiques, ce qu'on ne retrouvait pas dans la vidéo, justement, juste avant. Donc, il n'y avait aucune image pour illustrer les propos. C'était vraiment que du texte constamment. Ça en devenait même un petit peu redondant, je vous dirais, on va y revenir plus tard. Mais lui, il traitait vraiment tous les aspects, que ce soit négatif ou positif. Pour ce qui est du positif, il a aussi parlé... que ça pouvait avoir des conséquences sur notre bien-être qui était positive. J'ai même une citation pour vous. « Grâce au réseau, on peut rester en contact avec des proches partout dans le monde et développer des amitiés avec bien plus de personnes au travers de communautés en ligne. En cela, tous les services qui permettent de connecter à des individus qui partagent des centres d'intérêt communs peuvent encourager les comportements prosociaux et contribuer à notre bien-être. » Donc, on voit que pour lui, les réseaux sociaux, ça permet d'aller voir ailleurs dans le monde, d'avoir des contacts rapides avec tout le monde, de pouvoir se développer des nouvelles amitiés, des nouvelles relations. Puis c'est un moyen beaucoup plus efficace que d'avoir à voir tout le monde en vrai nécessairement.
Chacun de votre côté, vous avez regardé deux, mais il y en a une qui vous a certainement plus marqué. Je ne sais pas si tu veux commencer, Bernie, en nous disant ce qui t'a marqué avec ses points forts, points faibles.
Moi, je dirais ce qui est plus marqué, c'est vraiment le reportage de Social Dilemma. Comme c'est un reportage, je préfère plus ça que vraiment un gros texte qui donne plus d'informations. Donc, avec le visuel, on peut voir vraiment... comme il y avait des petits sketchs qu'on peut voir, comme quand expliquer une situation comme l'algorithme qui contrôle, qui connaît plus, ben dans le reportage, dans le documentaire, on pouvait voir vraiment comme une machine comme humaine pour montrer que ils ont toute une donnée sur nous, ils ont tout un document sur nous pour nous montrer de l'information qu'on voulait, ils nous mettent directement ce qu'on voulait. Je pense aussi que ce qui m'a marqué dans ce documentaire, ben, ça nous montre comment qu'on tombe toujours dans le rabbit hole. En fait, le rabbit hole, c'est tout ce que quand on trouve une information intéressante, ben, on regarde tout quelque chose qui est en lien, qui amène de pire en pire dans ce thème-là. Puis je trouvais ça que c'était intéressant vraiment pour montrer que ça, je suis déjà pogné dans ce panneau-là.
Oui, toi-même, tu t'en es aperçu que bien, je pense qu'on l'est tous un peu. En fait, c'est difficile de ne pas l'être. Puis c'est vrai que l'expression « rabbit hole », c'est en anglais, mais je trouve que, en tout cas, je l'entends rarement en français. On l'entend souvent en anglais. Fait que c'est bien le trou de lapin. Donc, ça vient un peu d'Alice au Pays des Merveilles, ouais, si ça. Je me souviens bien. Là. Donc, oui. Cette espèce de cercle vicieux qui nous ramène toujours vers autre chose.
Je pense que c'est parce que ça pique toujours notre curiosité, parce que c'est toujours sur un thème quand même précis, quand c'est toujours sur politique ou quelque chose, vraiment quelque chose qui est excitant, comme soit la guerre, soit politique, soit ça rapport avec un meurtre. Bon, excitant un meurtre, là, mais, mais vous voyez ce que je voulais dire. Comme, ouais.
Quelque chose que tu avais déjà regardé aussi auparavant.
Oui, c'est ça.
Oui. Et de ton côté, Gabriel, qu'est-ce que tu as préféré?
Personnellement, j'ai préféré la production médiatique médiatique, excusez, de Windupic était beaucoup plus intéressante à regarder, beaucoup plus rapide, avec des belles images. C'était concis aussi, on a notre information rapidement. On a tout ce qu'on veut savoir, puis c'est plus agréable à regarder aussi à l'œil. Par contre, si je peux dire d'un point de vue de l'information, c'est sûr que le test de Bastien Wagener, donc de se réaliser, était quand même plus intéressant. On a des sources qui sont scientifiques, ce qu'on n'a pas nécessairement dans la vidéo YouTube. C'est un de ses points faibles. On n'a pas recours à des scientifiques ou à des études concrètes. C'est vraiment juste un YouTuber qui parle, puis pas mal, n'importe qui peut publier n'importe quoi sur YouTube aussi. Mais par contre, son texte est quand même beaucoup plus attirant. Ça donne le goût de la regarder au complet. Tandis qu'un texte sans image, juste texte pendant 2000 mots, ça commence à être long, puis on est capable d'en perdre le fil rapidement. Surtout dans les études scientifiques. Un des points faibles aussi, c'est qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas nécessairement, beaucoup de mots difficiles. Puis ça nous fait décrocher un petit peu. On n'est pas trop sûr de bien comprendre le concept qu'on essaie de se faire expliquer. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai préféré la vidéo YouTube. C'est plus rapide. Puis dans une génération où est-ce qu'on veut, comme je disais tantôt, que tout aille rapidement, je pense que c'est plus intéressant quand même à regarder une vidéo explicative.
Puis bon, vous avez bien résumé les arguments, ça donne envie d'aller voir tout ça. Là, on va y aller pour une discussion un peu plus, improvisée sur le moment. La réglementation, en ce moment, on en parle beaucoup avec le gouvernement du Canada qui veut réglementer plutôt, bon, les grandes plateformes comme Netflix, Spotify. On a décidé de ne pas toucher aux réseaux sociaux pour l'instant, mais à votre avis, est-ce qu'on devrait justement commencer à penser à ça, à réglementer les réseaux sociaux pour avoir un espace plus harmonieux, plus respectueux peut-être?
Personnellement, je dirais oui, avec tout ce qui arrive, surtout en 2023, avec toutes les pensées, les heures comme les pensées misogynes, les pensées genre transphobes, homophobes. Ben, je pense qu'il faudrait quand même essayer de contrôler quelques propos, surtout parce que même si c'est juste des mots sur un écran, les mots, ça fait toujours mal. Ça peut avoir des effets négatifs, ça peut amener genre vraiment loin. Donc, je dirais qu'il faut quand même aussi faudrait quelque chose pour modérer ces mots-là, ces mots blessants, pour pas qu'on réveille un air d'attaque vers des groupes spécifiques. Déjà, on peut voir que ça arrive, là. Fait qu'il faudrait essayer de diminuer cela. En plus des attaques, ben, il y a toujours d'autres, comme des arnaques, ou sinon en anglais, des scams, que même les anciennes générations se font toujours pogner dedans. Fait qu'il faut faire quelque chose pour les aider. Faut que tout le monde on leur place sécuritaire dans les réseaux sociaux pour pas qu'on écarte des personnes, pour pas les éloigner tout le monde.
Je pense qu'il faudrait réglementer ce que l'on publie sur les réseaux sociaux, principalement pour les célébrités ou les personnes d'influence. On sait que c'est des personnes qui ont la parole forte puis qui s'expriment souvent sur des médias comme Twitter, Instagram, leur point de vue sur des choses. Je pense notamment à Kanye West, dans les dernières années, qui a fait beaucoup parler de lui pour ses pensées antisémites. Puis qui a partagé ça partout sur son Twitter. On sait que c'est fait bannir, mais il s'est refait allouer le droit d'aller sur Twitter puis de repartager son contenu. Fait qu'est-ce qu'il y a du monde qui vont adhérer puis qui vont comprendre ce qu'il veut expliquer puis qui vont eux aussi s'y mettre à avoir des pensées plus négatives? Je pense que ça mériterait un contrôle un petit peu plus sévère, d'avoir peut-être des conséquences plus sévères aussi sur les personnes, pas juste de se faire bannir d'une plateforme. Il faut vraiment qu'il y ait des amendes ou même d'aller en justice pour des affaires comme ça. Je pense aussi à Andrew Tate qui avait fait beaucoup parler de lui dans les médias, qui avait fait des propos homophobes aussi, qui avait fait du vol. Puis on l'avait vu, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se sont fait influencer par cette personne-là puis qui avaient commencé à adhérer à ce qu'il disait puis à ses idéologies. Là. Fait que ça peut être dangereux. On veut pas projeter des idées négatives sur les réseaux sociaux, mais il y a une question aussi de on veut pas faire de la censure, puis tout le monde a la liberté de parler. Fait que c'est difficile à contrôler, mais je pense qu'il y a définitivement des mesures qui pourraient être mises en place pour un contrôle plus global des plateformes.
Ouais, peut-être au lieu de censurer, je vois déjà comme l'application Twitter, il y a des intelligences artificielles qui met des fact-checkers pour montrer c'est quoi la vraie information en bas du post là. Fait que mm-hmm. Je pense que ce serait vraiment important qu'on ajoute ça dans d'autres plateformes parce que de ce que tu parles avec tout ce qui est Andrew Tate, vraiment tout ce qui est les pensées de faut que les hommes soient plus forts, faut que les hommes dominent sur tout le monde avec ses pensées misogynes, tout ça. Bon, on voit beaucoup plus ça sur TikTok. Puis je pense que TikTok, il n'y a vraiment pas vraiment de... Il y a pas vraiment de...
De contrôle.
Ouais. On peut pas vraiment... On fait juste scroll, on fait juste aller... On fait juste changer. Puis ça ramène au rabbit hole parce que TikTok a juste un post que tu vois que c'est intéressant, mais ils vont te le répéter. Fait que ça influence grandement la personne. Fait que je pense que TikTok aurait quand même besoin d'un petit contrôle pour pas qu'on tombe toujours dans le rabbit hole.
C'est vraiment intéressant. Je trouve que vous avez bien résumé la question. Franchement, puis c'est sûr aussi que tu le mentionnais, Gabriel, le côté, la liberté d'expression entre en jeu là-dedans. Puis c'est quoi nos limites? Je pense qu'on est vraiment dans un moment de l'histoire où il faut se questionner beaucoup sur que sont les limites de notre liberté d'expression. Même si on voudrait que tout le monde ait sa parole, il y a des paroles peut-être qui valent moins que d'autres. Hein. Ça, c'est faudrait voir jusqu'où on va. Puis cet impact-là sur la population peut avoir un impact sur le vote par la suite, parce qu'on pense à Donald Trump. Bien, merci beaucoup d'avoir fait le tour de la question avec moi aujourd'hui. Et on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode.